bruitisme, minimalisme, abstraction sonore, de la technologie,
dark metal théâtral,
classe.
T'as vu quoi plus?
Deux ambiances musicales, des méga jours, du cadeau.
Néo black metal rapide,
classe.
Des nouveautés, des infos, des cadeaux.
88.3.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Et bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans et au programme aujourd'hui dans Écoute ta fac, on commencera par le Flash Actu comme chaque jour, puis on enchaînera avec votre instant reportage qui habituellement a lieu en deuxième partie d'émission, cette fois ce sera en première et on continuera notre chronique de la semaine consacrée au Fab Lab. Puis, en deuxième partie d'émission, on retrouvera cette fois votre rendez-vous de la semaine, l'instant slam avec JML. Et enfin, on terminera cette journée avec l'interview du jour où on parlera de danse. Voilà, c'est le programme aujourd'hui dans Écoute ta fac et c'est parti. En musique, d'abord Jackson, non?
Ouais.
Avec quel titre du coup?
Devril Guermera.
Thank you.
Et après cet instant musical, c'est l'heure de votre flash actu. Et aujourd'hui, le flash actu sera composé d'une actu, une actualité nationale, mais une actualité étudiante qui concerne la plateforme Mon Master. Les candidats sans proposition d'admission pourront, cela a été annoncé hier, saisir le recteur des académies. C'est la dernière chance, indique la FAGE. À ce jour, 27 000 étudiants sont toujours en attente d'une proposition d'affectation sur la plateforme unique Mon Master, qui propose aux étudiants normalement titulaires d'un bac plus 3 de candidater auprès de tous les masters de France. Voilà, c'était le petit flash actu qui était composé d'une actu aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on poursuit l'émission en musique avant votre instant reportage du jour consacré au Fab Lab.
Instrument. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie est studentine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant. Mais tout prend l'eau, trop de mecs nous bassinent. C'est comme dans Matrix, le règne des machines. Du rap ne subsiste que le bashik. La mort de Pavlos Fissas, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques. L'histoire ne se répète pas mes rimes. Abîme toujours les mêmes, drôle de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles. Ghetto, terre, terre et guerre intestine. J'suis né dans le pays de la guillotine. Muslim et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine? Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine? Mon cœur cesse de battre parfois, c'est la routine. Est-ce donc ça qui discrimine? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République? La République, lyricalement, j'suis instrument. J'suis instrument, lyricalement, j'suis instrument. Je suis instrument, lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument.
Et sur la fin de ce titre, on va poursuivre l'émission avec l'instant reportage du jour et la deuxième partie de l'interview qu'on a pu tourner la semaine dernière au Fab Lab. Pour ça, je vous laisse écouter, c'est votre instant reportage.
Tiens, tiens, c'est le reportage du jour.
Radio Campus 88.3, deuxième et avant-dernier épisode donc de cette série consacrée à la découverte du Fab Lab. Et j'ai donc rendez-vous avec Clarisse Novello pour cette deuxième visite au cours de laquelle elle va nous présenter les machines. Donc je le rappelle, Clarisse Novello est responsable Fab Lab académique de Polytech Orléans. Elle est technicienne électronicienne de formation et anime le Fab Lab depuis 2018. Bonjour Clarisse.
Oui, bonjour Daniel.
Alors aujourd'hui, vous allez nous faire visiter les outils dont vous nous parliez hier, donc les imprimantes numériques, découpeuses, etc. Je vous suis.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que nous avons un espace de bricolage où on peut trouver des outils comme une perceuse, un marteau, des tournevis. Donc, un étudiant, évidemment, en chambre universitaire, n'a peut-être pas forcément tout sous la main. Donc, cet étudiant peut tout à fait venir ici au Fab Lab. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des fraiseuses à commande numérique, donc notamment... Une qui est très spécifique, qui permet de réaliser donc des circuits imprimés. Ensuite, on en a une autre donc qui va pouvoir réaliser, on va dire, si vous savez ce que c'est qu'un...
Oh. Allez-y. On ne sait pas, mais on vous demandera de nous expliquer si on ne comprend vraiment pas. Parce que là, donc, il est plutôt sur du bois.
Oui, alors ce sera plutôt sur du bois ou du plastique. Et donc, nous pouvons venir justement, l'usinage, c'est l'enlèvement de matière. Voilà, tout simplement. Et souvent, donc, nous avons un bloc voilà, de matériaux et nous allons creuser dedans. Et nous pouvons graver des chiffres, des lettres ou alors sculpter donc, tout un paysage avec, voilà, avec des reliefs.
D'accord. Donc ça, c'était la... vous l'avez dit en
la
plus.
La
fraiseuse à commande numérique, différente de l'autre fraiseuse qui permet de faire des circuits imprimés. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est pas le même type de matériaux.
Disons que c'est plus précis. C'est plus précis avec des fraises donc beaucoup plus costauds et puis plus fins.
D'accord. Et donc, j'en déduis, mais on en reparlera un peu plus tard, qu'ici, il est possible de composer, enfin de faire des circuits électroniques. Avec des résistances, etc.
Oui, en fin de compte, un circuit imprimé va nous aider justement à réaliser une carte électronique. Donc, nous allons pouvoir braser donc des composants dessus. Nous avons un four à CMS parce que maintenant, nous avons des composants que l'on appelle des CMS parce qu'ils sont tout petits et plus difficiles à souder à la main.
Et vous les manipulez comment ? Avec une pince à épiler ? Enfin, ils sont si petits que ça ?
Oui, tout à fait. Il faut une pince à épiler pour les placer à leur emplacement donc, sur le circuit. Et ensuite, donc, on pose dans le four. Voilà, et ça vient braser à 200 degrés environ.
D'accord. Et c'est ce que l'on appelle donc la brasure ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que c'est le terme plutôt technique parce que justement, quand on parle, couramment, on va dire souder parce que tout le monde comprend ce que cela veut dire, mais souder, en fin de compte, c'est assembler deux matériaux de même nature avec, l'élément qui va venir les souder, qui est le même matériau. Tandis que la brasure, eh bien, en effet, c'est différents matériaux qui vont être reliés ensemble.
D'accord. Mais donc la fraiseuse qui va imprimer le circuit en quelque sorte sur une carte, elle va dessiner justement des conductions entre les différents circuits, c'est ça l'idée ?
En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va plutôt retirer la partie cuivre dont on n'a pas besoin, en fait. Parce que c'est une plaque de cuivre brut,
d'accord.
Voilà, complètement. Et la fraise va venir du coup graver et donc retirer le cuivre.
D'accord. Et donc laisser le cuivre qui fera le lien entre les différents composants électroniques.
Oui, tout à fait.
Et moi, vous savez, moi, à l'inverse de vous, je n'y connais rien en maths, mais je commence à comprendre. Ça vient. On poursuit. Là, de quoi il s'agit, là ? C'est quoi cette machine ?
Oui, donc celle-ci, c'est une découpeuse laser, hein, parce que le laser est suffisamment puissant pour découper un certain nombre de matériaux, dont le bois, le plastique, alors pas n'importe quel plastique évidemment, du tissu coton, du cuir, de la mousse EVA, de la feutrine, du papier, du carton. Déjà avec tout ça, on arrive à faire pas mal d'objets.
Et on va poursuivre la visite. Là, il s'agit de...
C'est une imprimante 3D.
Alors, une imprimante 3D, comment ça fonctionne ?
Alors, oui. Donc, ce qui est plus accessible, c'est avec du filament. Donc, c'est grâce à des bobines de filament. Donc, le filament va être chauffé à une certaine température. Et du coup, ce filament donc, devient mou et facile à déplacer et à poser.
C'est du plastique, ce filament ?
Oui, on va dire que généralement, ça va être du plastique, sachant que de nos jours, nous pouvons réaliser de la pâtisserie, hein. Donc oui, la fabrication additive, on a tendance à dire impression 3D parce que tout le monde comprend, mais voilà, je peux dire qu'on peut faire un gâteau en chocolat grâce à l'impression 3D ou une pizza, ça, c'est possible. Parce qu'on voilà, on va pas chauffer du filament,
oui.
On va chauffer du chocolat.
Et mais c'est ce qui se passe dans les usines en fait, quand ils nous font les gâteaux à la chaîne.
Oui, c'est déjà ça.
Mais oui, puisqu'il y a une machine qui va mettre le nappage chocolat et puis une où on verra mieux la notion de 3D avec un embout qui va permettre la forme de la petite boule de crème au beurre pralinée qui nous donnera l'impression que c'est sorti d'un diffuseur de chantilly alors que c'était une machine.
Oui, c'est ça.
D'accord. Ou encore mieux pour les pièces montées.
Oui.
Très bien. Donc oui, le principe de l'imprimante 3D a toujours existé dans l'industrie. Mais là, il s'est démocratisé, c'est-à-dire que c'est devenu un outil qu'on peut avoir. Alors peut-être pas chez soi, même si c'est possible de l'avoir chez soi. Disons que celui qu'on a au Fab Lab prend un peu de place. Hein, il ressemble un peu à un petit frigo quand même. On peut dire qu'il a la taille d'un petit frigo. D'accord. Et permet justement d'envisager la construction d'objets bien plus grands et plus peut-être plus précis.
Alors disons que le rendu est différent, on a un rendu plutôt lisse et aussi c'est que l'impression à 100% est réussie. Voilà, nous pouvons orienter la pièce dans n'importe quel sens, on n'a aucun souci au niveau du résultat. Quoi. On peut avoir confiance dans cette machine.
Oui, parce que c'est ce qui est impressionnant, on a une précision de l'ordre du dixième de millimètre même. Enfin, on va voir des objets un peu plus tard avec une précision très fine quand même.
Oui, tout à fait, du dixième de millimètre, vous avez raison. Oui. Non, mais il y en a certains, ou alors c'est aussi le centième de millimètre. Mais bon, je n'ai pas cette machine.
D'accord, mais ici, vous avez déjà cette précision du dixième de millimètre.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord, ce qui permet après donc, d'avoir de la restitution d'objets très fidèles à l'original. On poursuit la visite. Hein.
Donc nous poursuivons, oui. Alors nous avons là quatre imprimantes 3D qui sont à disposition et que les étudiants peuvent utiliser en autonomie. Donc nous avons une plateforme de réservation hein, sur Internet. Cela évite les bouchons, évidemment, sachant qu'une impression, c'est vrai que la plupart du temps, ceux qui viennent se former réalisent que ce n'est pas aussi rapide que l'on pense. Voilà. Un sous-tasse à peu près de 3 mm, ça prend 1h30 à 2h d'impression.
D'accord. Sans parler de la modélisation préalable hein, qu'il aura fallu faire pour donner les ordres à l'imprimante.
Ah oui, tout à fait. Donc la modélisation, oui, en fonction de ce que nous souhaitons réaliser, je ne pourrais pas trop quantifier. Bon, ça peut être 2 heures, mais ça peut être aussi 3 semaines ou voire même plus de modélisation 3D. Il faut savoir aussi que sur Internet, vous trouvez toute une banque de données hein, où vous pouvez télécharger hein, des objets, des figurines gratuitement et pouvoir imprimer. Donc, c'est pour ça que c'est quand même accessible car on trouve beaucoup de choses sur Internet.
Alors là, derrière vous, je vois des bobines de filaments, ou alors ce sont non du fil électrique, je ne sais pas. De quoi s'agit-il ?
Oui, ce sont du fil électrique, tout simplement. Oui, c'est pour l'électronique. Oui.
Et donc ici, il est possible de faire des soudures un peu plus grossières entre guillemets.
Oui, parce qu'il y a toujours besoin de réparer des cartes électroniques, voilà, une soudure qui s'est dessoudée, ou un fil, hein, par exemple un casque de téléphone ou le cordon d'une alimentation. Donc, plutôt que de jeter, parfois, eh bien, il suffit juste d'une petite soudure et puis ça y est, c'est reparti pour 10 ans.
Et puis à votre droite, donc, il y a une armoire avec des dizaines, voire des centaines de petits tiroirs. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces tiroirs ?
Alors, comme nous sommes dans l'espace électronique, nous trouvons un certain nombre de composants électroniques, dont les résistances, les condensateurs, les transistors, et quelques vis et écrous, justement, qui permettent de fixer la carte électronique.
Mmh. Donc pour réaliser mon circuit imprimé sur la carte électronique, il y a bien évidemment des ordinateurs et des appareils, je dirais ce sont des appareils de mesure certainement, non ?
Oui, nous avons un générateur de tension donc qui peut monter jusqu'à 30 volts. Ensuite, des générateurs de signaux, parce que bon, il est parfois beaucoup plus simple de simuler une onde audio ou une onde radio grâce à ce générateur de signaux, et un oscilloscope pour visualiser ces signaux.
Donc il serait possible, par exemple, là, dans cet endroit, de réaliser un émetteur pour Radio Campus Orléans ? Vous avez beaucoup de matériel ?
Ah oui, vous pouvez tout à fait réaliser un émetteur et vérifier grâce à l'oscilloscope si tous les signaux sont corrects et ensuite l'utiliser.
Et oui, parce que chers auditeurs, auditrices qui nous écoutez sur le 88.3, il s'agit de 88 300 000 Hz à la seconde réalisés grâce à l'oscillographe qui se trouve dans l'émetteur. Mais c'est une autre histoire et ce n'est pas l'objet de notre découverte aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que les sciences sont partout et omniprésentes. Alors là, il s'agit d'une sorte de microscope peut-être, je ne sais pas, j'imagine.
Oui, bon, on y voit pas aussi fin qu'un microscope. C'est plutôt une loupe. Il faut savoir que les circuits imprimés, donc, comme on avait dit, c'est très fin, les pistes sont très petites et parfois, justement, les courts-circuits, on ne les voit pas à l'œil nu. Donc, cette loupe nous permet de contrôler, tout simplement, et de pouvoir corriger s'il y a un souci de court-circuit.
Oui. Et à éviter, bien évidemment, pour le bon fonctionnement des appareils qui sont réalisés ici. Alors, on poursuit notre visite. On arrive dans une deuxième salle.
Donc, c'est une salle dédiée au textile où nous avons un plotteur de découpe qui permet donc de découper du vinyle. Alors, ça peut être du vinyle pour uniquement de la signalétique,
La signalétique, c'est-à-dire qu'après du vinyle autocollant, oui. Adhésif, voilà, c'est ça ?
Exactement, du vinyle adhésif, justement, oui, que l'on peut découper et ensuite aller poser sur...
Les murs, les portes, voilà, etc. D'accord, très bien. Alors, une presse peut-être, à chaque fois, vous avez vu, je devine et vous me dites si c'est bon ou pas. Ouais. Moi, je dirais que c'est une presse.
Oui, donc nous venons de voir le plotteur de découpe. Eh bien, ce plotteur peut découper ce qu'on appelle du papier flex. Et ce papier flex, donc, va nous permettre donc, de réaliser du flocage sur du tissu, donc, d'où l'intérêt de la presse à chaud, parce que ça va presser. Donc, le flex, c'est un genre de papier autocollant, mais du coup, grâce à la chaleur. Et cela va être fixé sur le tissu. Donc, on peut réaliser donc toutes sortes de motifs sur un t-shirt, un pantalon, une jupe, et aussi sur des coques de téléphone. Alors, c'est peut-être pas du flex, ce sera un autre type de papier, mais on peut personnaliser des coques de téléphone et autres.
D'accord, très bien. J'ai souvent entendu parler de flex. Est-ce que tu es flex, toi, Rodrigue ?
Flexible.
Et donc, ça permet voilà, une impression sur les t-shirts, une impression thermique, c'est ça ? Donc, oui. C'est la chaleur qui va permettre
de fixer ce papier flex
sur le t-shirt. D'accord. Mmh. Et puis, alors, on a des machines à coudre, mais alors de toute dernière génération, j'ai l'impression. C'est presque des ordinateurs.
Oui. En fait, j'ai oublié de dire que... Le Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique. C'est vrai que j'ai oublié de dire le terme numérique, d'où justement machine à coudre numérique, brodeuse numérique. Il faut un ordinateur pour convertir toutes sortes de motifs en points de couture, et c'est la machine qui ensuite va broder ce motif sur le tissu.
Eh bien, c'est ici que s'achève notre avant-dernier épisode de la découverte du Fab Lab. Je vais préciser numérique, du Fab Lab numérique de Polytech Orléans. Et on se retrouve la prochaine fois pour le dernier épisode, au cours duquel Clarisse Novello nous présentera quelques projets réalisés ici au Fab Lab.
Et voilà, on remercie Daniel Begdad pour cet instant reportage. Et comme il vous l'a si bien dit, c'est notre avant-dernier reportage sur le Fab Lab, et vous retrouvez la troisième partie demain dans notre émission. En attendant, on poursuit en musique avec quel titre, Jackson ?
On poursuit avec le jus d'abricot d'Albert Marker.
Tiens, la couche de dépôt de jus d'abricot sur le rebord du verre cache la trace de mes lèvres graisseuses. J'aime bien le jus d'abricot, c'est très épais, c'est très beau. Quand on verse le jus d'abricot, il faut faire attention de ne pas toucher les parois du verre. J'aime bien le jus d'abricot, c'est généreux, c'est très beau, mais c'est toujours pareil, il est quand même meilleur quand on le fait soi-même. J'aime bien le jus d'abricot. Le boire ensuite en fine gorgée, toujours porter les lèvres au même endroit, afin d'obtenir une seule trace de jus à l'intérieur du verre. Pour amener le moins possible, éviter les intermédiaires, éliminons le verre et dégustons le jus. J'aime bien le jus d'abricot, c'est généreux, c'est très beau, mais c'est toujours pareil, il est quand même meilleur quand on le fait soi-même. J'aime bien le jus d'abricot.
Et après ce titre, vous avez votre instant musical que vous retrouvez chaque mercredi, l'instant slam avec JML. Et c'est parti pour ce petit moment de slam.
On couche ici 4 ou 5.
C'est l'instant slam.
Puis c'est le matin gras. On couche ici à 4 ou 5, et puis la gueule de poids, on va se miner.
Petit loupé technique, on recommence, c'est donc l'instant slam avec JML.
C'est l'instant slam.
Bonjour à tous, c'est JML et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau texte que je vais vous lire. Allez, on y va. Je ne voulais pas être ce Père Noël qui n'attend que Noël pour offrir des cadeaux. Mais je voulais être ce Père Noël qui souhaite à tout le monde avant de dormir bon dodo. Même si tu as mal à la tête ou mal au dos. Je vous dis, moi, dans mon sac à dos, il y aura toujours une console pour consoler les gens. Il y aura aussi des solutions pour des gens qui ont des problèmes, comme la solution hydroalcoolique pour des gens qui ne se lavent pas les mains. Dans mon sac, il y aura des livres pour donner aux gens qui s'ennuient et pour payer la pension pour des personnes qui crèvent de faim. J'aurai une compassion sans fin. J'aurai toujours le même refrain. La joie, la joie, la joie. Que tu sois pauvre ou bourgeois, citadin ou villageois, tu auras ton cadeau, quel que soit ton credo. Pour les ados, avant de goûter à mon gâteau, il faudra faire des abdos. Je rigole. Je serai un Père Noël avec un grand cœur, prêt à le sectionner et le donner aux personnes qui n'ont pas de cœur. En hiver, si tu manques un manteau, je te donnerai le mien sans rancœur. Je serai un Père Noël sans saison, mais avec 1000 raisons. Ma maison sera appelée une maison des sans-voix. Je n'aurai pas besoin de mettre ma combinaison pour être identifié, parce que sur mon visage sera écrit « amour ». Ma bouche sortira toujours de l'humour. J'aurai toujours sur moi des cadeaux. Les bons élèves seront récompensés chaque mois. Je serai un Père Noël sans frontières. Que tu sois au Congo, au Canada, en France, en Chine, tu auras ton cadeau, quel que soit ton credo. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on poursuit en musique avec le Lunatic.
Et après cet instant slam, pour finir l'émission d'aujourd'hui, c'est l'heure de votre interview du jour où on va parler danse avec Catherine Munier, qui dirige la compagnie Catherine Munier, et Virginie, qui est danseuse dans cette compagnie. C'est l'heure de l'invité du jour. Tu l'as pas ? Eh bien, c'est parti, on va donc commencer avec les questions parce qu'on n'a pas le jingle. Mais c'est pas grave. Du coup, première question, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos parcours ?
D'accord, je commence. Hein. donc, moi, mon parcours. Alors, je suis actuellement sophrologue et art-thérapeute, avec comme dominante la danse.
Allez-y.
Mon parcours, j'ai un doc de danse à la Sorbonne, voilà, où j'ai étudié tous les types de danse, classique, moderne, jazz, contemporain, etc. Et j'ai été initiée à la danse-thérapie lors de ce cursus. Voilà. Et ensuite, j'ai enseigné la danse pendant plus de 20 ans. Et je me suis formée également à la sophrologie, que j'ai pratiqué et que je continue à pratiquer. Et puis, depuis 4 ans à peu près, 4-5 ans, j'ai souhaité créer une compagnie de danse. Et nous avons proposé une première pièce que j'ai appelée « Et après ». Voilà. Et ensuite, le Covid est arrivé. Alors, petite pause pendant 2 ans. Voilà, on a été obligé d'arrêter tout ça. Et puis dernièrement, c'est cette dernière pièce que j'ai appelée « Équilibre », qui parle de tout ce que toutes les questions que l'on peut se poser dans nos vies afin de trouver justement cet équilibre, équilibre personnel, équilibre professionnel, trouver une homéostasie, répondre à nos besoins, voilà, tous ces questionnements, toutes ces angoisses, c'est le travail de cette pièce, voilà.
Et vous, Virginie, votre parcours, comment il s'est construit dans la danse?
Pour moi, la danse a toujours fait partie de ma vie, j'ai envie de dire. Je ne suis pas danseuse professionnelle, mais j'ai commencé la danse petite fille par de la danse rythmique d'abord et puis de la danse classique jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Après, enfant, j'avais été initiée aussi un peu à la danse contemporaine, claquette, tout ça. Et en fait, j'ai toujours continué tout en poursuivant un parcours scolaire et professionnel totalement autre. Et je ne vois pas ma vie sans la danse. J'ai pratiqué pas mal la danse contemporaine. J'ai arrêté le classique au bout d'un moment, mais ça reste une base. Et j'ai rencontré Catherine à Orléans. Donc, je suis arrivée à Orléans il y a 12 ans, mais j'ai commencé à fréquenter le centre chorégraphique national lors des ateliers amateurs qui sont développés il y a une huitaine d'années, je pense. Catherine m'a parlé de son projet cette année autour de l'équilibre entre vie personnelle, professionnelle, artistique, même en amateur. Voilà, et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai une vie de famille avec deux enfants, un travail des souhaits d'expression autour de l'art qui est la danse. J'ai accepté avec grand plaisir d'intégrer ce projet autour de cette question de l'équilibre.
Et justement, cet équilibre, comment on le trouve? Quelles sont les pistes de recherche que vous avez pu explorer du coup, en construisant cette pièce? Parce qu'il y a l'équilibre une fois qu'on est par exemple en classe horaire aménagée, qu'on passe ensuite dans l'enseignement supérieur, où on ne retrouve pas forcément les mêmes rythmes de danse. Il y a avec la vie familiale aussi, dans le monde professionnel. Quelles sont les pistes que vous avez pu développer?
Alors, oui, là, tu parles plutôt d'un équilibre quand tu quittes l'école et que tu arrives à l'université. Oui,
ben, même de façon générale, parce que ça, c'est pour des personnes qui sont étudiantes. Mais après, il y a aussi ce même équilibre à trouver de façon professionnelle.
C'est un équilibre, en général, c'est plutôt parti d'un équilibre féminin, enfin qui me concerne vraiment, hein, voilà. C'est aussi parce que je n'ai plus 20 ans, donc c'est une quête de stabilité plutôt intérieure, d'une espèce de sagesse, de paix, quelque chose comme ça, une recherche, voilà. Mais qui, je pense, peut toucher aussi les plus jeunes, mais que je ressens plutôt ces dernières années, cette quête, voilà. Et cette pièce va être assez chorégraphié, mais aussi ça va passer par... Enfin, ce que je souhaite, c'est que ça passe par un travail justement d'interprétation de la part des danseuses. Et on va travailler beaucoup en impro aussi, voilà, sur ce sujet.
Vous voulez rajouter quelque chose? Comment justement vous conseillez?
Pour compléter, j'ai envie de dire que cette question de l'équilibre m'a touchée parce qu'elle s'est toujours un petit peu posée. On est dans un milieu un petit peu étudiant, là. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on peut se poser des questions. Est-ce qu'en tant qu'amateur, on veut aller plus loin ou pas? Est-ce que... voilà, donc après, c'est des questions qui m'ont toujours... accompagner cette question d'équilibre avec des choix à un moment donné qui doivent permettre de trouver l'équilibre. Après, la façon dont travaille Catherine, je trouve ça intéressant parce que elle a des idées assez précises sur le thème, sur des mouvements, mais après l'interprétation reste libre. Alors on commence tout juste le travail, hein, mais pour l'instant, je trouve que c'est intéressant parce qu'on cherche aussi l'équilibre entre ce qu'apporte le chorégraphe et puis ce qu'apporte le danseur.
Puis ça permet aussi de clarifier, du coup, si je comprends, aussi pour soi, en fait, c'est pas seulement qu'une chorégraphie, c'est aussi pour le danseur se dire, ok, moi aussi, je vais chercher mon équilibre dans ce travail.
C'est vraiment mon but, oui, que ce soit pas voilà, ma chorégraphie et puis mon petit truc à moi, c'est pas du tout l'objectif. C'est que les danseuses s'y retrouvent aussi, qu'elles donnent d'elles-mêmes, de leur vie, de leur passé. Ça, je trouve ça intéressant, quoi, pour elles et puis pour moi. Sinon, je fais un solo, quoi. Voilà, c'est chouette aussi, mais c'est pas le but de cette création. Voilà. Et oui, c'est ça, c'est trouver toutes les questions que l'on peut se poser, en fait, toutes les angoisses, voilà. C'est pas très gai, mais en même temps, c'est pas un négatif, parce que le but, c'est le chemin à prendre. Voilà, quel chemin, quelles questions on se pose, et puis peut-être on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais c'est tout ce trajet qui est intéressant. Mais c'est plutôt positif, hein, comme... Ça paraît un peu triste comme ça, mais non, c'est plutôt quelque chose de la vie, de la joie, quoi.
Voilà. Oui, et puis c'est bénéfique aussi, c'est se retrouver soi et dans la danse.
Voilà, tout à fait.
Après, il nous reste à construire les choses pour que ça devienne bénéfique pour le public aussi.
Oui.
Et justement, cette passion de la danse, parce que du coup, pour trouver un équilibre, c'est bien qu'il y a une fougue, il y a une énergie. Comment vous, elle est apparue? Comment vous la sentez, en fait? Comment vous la vivez?
Alors, moi, je vais dire qu'elle fait partie de mon ADN, en fait. Je suis née avec. J'ai commencé comme Virginie toute petite, j'avais 4 ans. Et elle fait partie de ma vie. C'est vraiment... c'est tout ce que je peux dire.
S'il fallait mettre des mots et qu'il fallait la décrire...
La danse, oui. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est ma joie. Je suis passée par, comme beaucoup, dans des moments pas faciles, voilà, des moments difficiles de ma vie. Et la danse a toujours été là pour me récupérer, on va dire, pour m'aider, pour me donner des billes. C'est vraiment un moyen d'expression que j'ai envie de transmettre aussi, parce qu'elle m'a tellement apporté que j'ai envie de le faire partager, quoi, de le partager à d'autres. Voilà ce que je pense de la danse.
Moi, je dis toujours à mes enfants, la danse, c'est la vie. Ouais, bah, effectivement, je pense que c'est une forme d'art. Et quand on a du mal à exprimer des choses, la danse, c'est aussi réussir à faire sortir les choses et se sentir mieux psychiquement, physiquement, après un moment de danse et du partage aussi. Ce que j'aime dans le travail que j'ai découvert là ces dernières années, c'est que on part pas d'un prérequis technique. La danse, c'est de la technique aussi, c'est vrai, mais tout le monde peut danser quand même, et tout le monde peut apporter des choses, quel que soit le niveau technique que les gens ont. Donc c'est ça aussi, la danse, c'est l'ouverture à tous. Dans toutes les cultures, il y a de la danse, quel que soit le niveau.
Et ça permet justement de lâcher le mental, de revenir à son corps, juste au plaisir de danser, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est assez... ça passe par des questionnements, par des angoisses, cette pièce. Mais c'est aussi comment on arrive à le sentir vraiment corporellement, quoi. C'est ça l'objectif, quoi. C'est de lâcher la tête et de revenir dans son corps, dans ses sensations.
Moi, je me souviens, pour rebondir à ce que vous disiez en disant « la danse, c'est ma vie », j'avais eu un professeur en stage qui m'avait dit « il y en a beaucoup qui disent que la danse, c'est ma vie, mais je préfère leur répondre qu'on danse plutôt ce que l'on vit ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase qui est...
Oui, tout à fait, les deux. Moi, je dis que la danse, c'est la vie, ça a été ma vie, parce qu'effectivement, je le sens vraiment profondément dans tout ma tête, mon ventre, mon corps. Mais oui, c'est... oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. La vie, c'est la danse, c'est ça qu'il disait. Ben, oui, c'est...
Les deux. On danse ce que l'on vit.
On danse ce que l'on vit, oui. Bah,
et je pense que
c'est le but. C'est ça, c'est le but de la pièce, c'est le but des chorégraphies en général. Enfin, c'est comme ça que je l'entends, moi. C'est un moyen d'expression, quoi. Voilà.
On danse, je dirais, ce que l'on ressent. Et qu'on ne peut pas toujours vivre. Moi, je le ressens aussi comme ça. Hein, quand on peut aussi exprimer des choses différentes de ce que l'on vit.
Et cette pièce, quand vous l'avez conçue, imaginez, vous l'avez conçue, du coup, on le voit bien, en partenariat avec les danseurs, ou vraiment le danseur est bien impliqué dans la pièce, enfin, va au-delà de seulement les pas. Il y a vraiment une conscientisation aussi, un travail de réflexion que le danseur doit faire pour la pièce. Mais pour le public, comment vous l'avez pensé pour le public ?
Alors, ça part effectivement de mon travail, voilà, de recherche vraiment seule, ça pour le coup. Ensuite, j'ai demandé justement à des danseuses avec lesquelles je sentais qu'elles étaient prêtes à interpréter ce que je souhaitais. Et puis, il fallait aussi que ce thème les intéresse, voilà, qu'elles se sentent en accord avec ça. Et voilà, et c'est le cas. Après, ça, c'est une compagnie, voilà, je m'adresse à des danseurs amateurs. Dans le lot, il y aura une danseuse professionnelle qui est déjà dans le milieu de la danse, de la culture. Mais ça n'empêche que je vais demander une exigence parce qu'on se doit, justement, face au public, de proposer quelque chose, j'espère, de qualité, ou au moins on va tout faire pour que ce le soit, avec un travail, avec une rigueur, même si ce sont des amateurs. Pour moi, c'est vraiment très important, par respect, déjà pour nous, pour notre travail, et puis pour le public, quoi. Parce que c'est pas rien d'être sur scène et de montrer notre travail, et... Donc voilà, et des fois je peux être un peu pénible, je crois, mais je trouve que c'est nécessaire d'avoir cette exigence de travail, quoi.
On est au début.
Virginie va partir en courant.
Pas du tout. Je suis d'accord. Pour nous-mêmes, je pense qu'en termes de rendu et par honnêteté aussi avec le public, on va devoir avoir une certaine rigueur et ça va nous reposer cette question d'équilibre parce qu'il va falloir s'investir aussi dans le projet.
Et alors là, du coup, on est sur un plateau radio, on ne peut pas être dans vos répétitions, mais comment ça se passe, les répétitions, pour les auditeurs qui nous écoutent ?
Simplement.
Si vous deviez les décrire, parce que eux, ils. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de danse.
D'accord.
Et comment vous décririez des répétitions ? Comment ça se passe ? Comment vous les organisez ? Vous les préparez et vous les vivez ?
Alors, j'y vais, Virginie. Vas-y. Alors, par un échauffement, déjà, voilà. Soit elles s'échauffent chacune de leur côté, soit en collectif, voilà. Enfin, soit j'en propose un. Et ensuite, j'amène la chorégraphie. Pour l'instant, c'était ça, lors des répétitions. Et puis, on va travailler, comme je disais tout à l'heure, beaucoup en impro, avec un thème, avec des mots, en fait. Des mots qui vont rappeler le thème, le sujet, quoi. Il y a différents tableaux. Il y a 5 tableaux sur cette pièce. Et on va travailler les tableaux à la suite, voilà, tout simplement. Sur des musiques, parce que les musiques sont très importantes pour moi. Voilà, donc je travaille beaucoup rythmiquement, enfin la musique m'inspire également beaucoup.
Et vous choisissez comment les musiques dans la préparation justement de ces répétitions ?
Alors la musique a été choisie pour cette pièce en fonction du thème, donc certaines musiques sont un peu angoissantes, un peu questionnantes, enfin il faut que ça me parle surtout, quoi. Je ne peux pas créer, je ne peux pas danser sur des musiques que je ne ressens pas. Ce n'est pas possible. J'y arrive pas. Peut-être certaines y arrivent, moi, je n'y arrive pas. Ça a été simplement, j'écoute des musiques et je me vois ou je ne me vois pas en train de danser dessus, en train de créer dessus. C'est tout simplement comme ça. Voilà, il faut que ça m'inspire, quoi.
Ça a été décrit. Après, Catherine a prévu qu'on se réunisse au moins une fois par semaine et un week-end par mois. Donc, petite description d'une séance comme elle l'a faite. Pour l'instant, on ne s'est pas encore vu énormément, mais...
On a beaucoup parlé.
Voilà, on a pas mal parlé. On a commencé des petits mouvements pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et puis, il y a un petit film qui
oui,
va...
Oui, on a fait une vidéo aussi.
Si certains veulent aller voir d'ici oui. quelques temps sur oui. ton site.
Oui. Oui, je voulais remercier aussi également l'agence Yvonne et Colette qui a été à l'initiative de notre site. Et il y aura justement la vidéo de cette vidéaste, je crois que c'est ACS Vidéo, hein, elle est sur Olivier, je ne sais plus son nom. Mais ouais, voilà, on s'est fait ce plaisir la semaine dernière, c'était très sympa.
Et pour la danse, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de structures qui proposent quand même du contenu chorégraphique sur Orléans et sur sa région ou pas?
Eh ben, on en revient au centre chorégraphique. Voilà, moi je suis très contente de pouvoir suivre les ateliers et les after-work le lundi soir. Voilà, c'est un chorégraphe qui est programmé justement au théâtre et qui vient nous présenter son travail en amont. Donc je trouve ça très riche et ensuite voir le spectacle derrière, je trouve ça vraiment, c'est une chouette proposition. Voilà, donc moi je suis restée cloîtrée sur le centre chorégraphique, j'avoue que je ne suis pas tellement allée voir ailleurs, voilà.
Oui, il y a quelques compagnies qui proposent aussi de la danse pour les enfants notamment, il y a le centre chorégraphique. Après je trouve que pour les amateurs, c'est vrai que l'offre de qualité s'est beaucoup développée au centre chorégraphique, à la scène nationale, par rapport à ce que j'ai pu connaître il y a 20-30 ans, la danse se démocratise, on ouvre beaucoup d'ateliers aux amateurs. Donc, je suis assez contente de ce que j'ai pu découvrir sur Orléans. Et quand j'étais étudiante, j'étais à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y avait une belle offre aussi autour de l'université. Donc, je trouve ça bien aussi que les universités puissent proposer des ateliers parce que ça permet aussi de rester dedans après en avoir fait enfant.
Et justement, je voulais parler de cette transmission à la rentrée. Je vais proposer un atelier de danse contemporaine au SWAPS. Voilà, donc j'invite tous les étudiants et tout le personnel même à venir. Voilà. C'est important pour moi et puis pour la compagnie de transmettre voilà, tout cet amour, ce plaisir de danser. Quoi.
Et pour finir cette interview, si vous vouliez dire un mot pour faire venir les étudiants ou inviter des gens à danser, tout simplement, notamment pendant cette période d'été qui est plutôt festive.
Allez-y, amusez-vous, dansez, profitez, je ne sais pas, dansez. C'est Pina Bausch qui dansait, qui disait dansez, dansez, sinon vous êtes perdus. Donc voilà.
J'ai rien de plus à dire. Dansez, venez danser, dansez ensemble.
Eh ben merci beaucoup en tout cas. On rappelle le nom de la compagnie, c'est Catherine Munier. Mm-hmm. Et vous avez un site internet. Oui. On peut vous retrouver sur des réseaux sociaux ou pas du tout?
Si, bah si, sur Instagram et puis Facebook. Ouais.
Très bien. Les auditeurs notent donc merci. Tout ça. Et on va poursuivre l'émission en musique. Il est déjà 12h54 sur Radio Campus Orléans. On passe à la suite. Tanta que dom, tanta que dom, tom. 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 Impossible d'y échapper. Moi, je n'étais pas pour. Ma sœur et sa cour en soirée. C'est pas mon truc, ça me rend sourd. Mais comme toujours, sois pas con, tu vas adorer. Me voilà serré comme un veau, au moins 12 dans la 4L. Mes trois cousines sur les genoux, ça pue la laque ou bien le gel. C'est loin, c'est long. Je tiendrai pas fait demi-tour. Non, 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 merci. Merci, je
danse jamais. Non, 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 merci. Merci, je ne danse jamais. Jamais. Mon petit corps, ma grande tête, dans des habits trop grands, à contre-cœur, joigne la fête. Tout est laid, allons-nous-en. Toujours les mêmes, vous allez voir, il est marrant. Marrant mon cul, c'est qui la brune? Rallumez les lumières, ça sent la bière, c'est qui la brune? La bière et le champagne tiède. Qu'est-ce qu'elle me veut? Allez-vous-en, j'ai des coups. Merci, je ne danse jamais. Non, 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 merci. Merci, je ne danse jamais. Viens dans la grange. Tantagadon, 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 non, 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 merci. Merci, je n'ai jamais con. Non, 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 merci. Merci, je n'ai jamais fait. Non, 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 merci. Non, 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 merci. Merci, je n'ai jamais con. Non, 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 merci. Merci, je n'ai jamais, jamais.
Et il est midi 57 sur Radio Campus Orléans, bientôt 58. On est sur la fin de cette émission Écoute ta fac, mais on se retrouve demain pour une nouvelle émission, en fait, tout simplement, pour une nouvelle journée d'information. D'ici là, bah, prenez soin de vous et puis à demain, midi.